Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le mouvement de la militante écologiste Greta Thunberg appelée à manifester devant les ambassades et consulats du Brésil, les incendies en Amazonie choquent à travers le monde. Le président brésilien est interpellé de toutes parts. Emmanuel Macron veut parler de cette urgence pendant le G7 ce week-end à Biarritz.
Il sera présent au G7 pour quelques sessions de travail. Le premier ministre indien Narendra Modi s'est entretenu hier avec le président français. On reviendra sur cette relation diplomatique délicate mais stratégique.
Les Italiens ne retourneront peut-être pas aux urnes pour des élections anticipées, pas si un accord est trouvé entre les formations politiques d'ici mardi, délai accordé par le président italien hier pour tenter de résoudre la crise.
Les syndicats redoutent la suppression de 500 postes chez BNP Paribas dans une filiale peu connue du public. Les précisions à suivre d'Anne-Laure Jumet.
Le président brésilien est sous pression. Les incendies qui ravagent l'Amazonie provoquent de multiples réactions, dont celle de l'ONU. Son secrétaire général Antonio Guterres s'est dit profondément préoccupé en pleine crise climatique mondiale. Nous ne pouvons accepter davantage de dégâts, selon lui. La majorité de la plus vaste forêt tropicale du monde se trouve en territoire brésilien. La déforestation est à l'origine des incendies, mais ça, Jair Bolsonaro ne veut pas l'accepter. À Sao Paulo, Julia Tonsa.
Les images des incendies ravageant une partie de la forêt brésilienne s'actualisent d'heure en heure, montrant un ciel sombre et gonflé par les flammes au-dessus de l'Amazonie. Jair Bolsonaro accuse, sans aucune preuve, les ONG de défense de l'environnement d'être à l'origine de ces feux de forêt, provoquant de multiples réactions de colère ici au Brésil. S'il a déclaré devant la presse étrangère « L'Amazonie n'est pas à vous », la mobilisation internationale, elle, a pris un nouveau tournant avec ce constat sur Twitter du président français Emmanuel Macron à 2 jours de l'ouverture du G7 à Biarritz. « Notre maison brûle, littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène, est en feu. C'est une crise internationale. » Le gouvernement français a annoncé débloquer 9 millions d'euros pour la préservation de l'Amazonie d'ici 2020. Une déclaration largement reprise par la presse brésilienne. L'ONU Brésil estime que 33 millions de personnes vivent dans les États atteints par les flammes, incluant 420 communautés indigènes. La Norvège et l'Allemagne ont récemment suspendu leurs subventions au Fonds Amazonie en raison des positions du président brésilien. Son soutien à l'agronégoce a bel et bien favorisé les défrichements illégaux pour laisser place à l'élevage et à la culture, notamment du soja. Et dans ce contexte, les internautes tentent de se mobiliser avec le mot dièse « Pray for Amazonia », prions pour l'Amazonie, première tendance mondiale sur Twitter ces derniers jours.
On vient de l'entendre, la France veut donc s'impliquer dans la lutte contre les incendies en Amazonie. Emmanuel Macron veut parler de cette urgence aux membres du G7 réunis à partir de demain à Biarritz. Mais cet appel est tardif et insincère selon Clément Sénéchal, spécialiste des forêts au sein de Greenpeace France.
La réaction d'Emmanuel Macron, elle est bienvenue, elle est un peu tardive, mais surtout est-ce qu'elle n'est pas un petit peu hypocrite, parce que Jair Bolsonaro n'avait jamais fait mystère de ses plans de vendre à la découpe l'Amazonie à l'agribusiness, de réduire toutes les législations qui permettaient de protéger l'Amazonie. Or, Emmanuel Macron a soutenu la signature d'un accord de libre-échange avec Jair Bolsonaro, le Mercosur. Donc voilà, on donne des satisfactions politiques d'un côté à Jair Bolsonaro et de l'autre, on va évoquer les incendies, la crise environnementale au G7. Très bien, mais où est la cohérence aujourd'hui entre la diplomatie d'une part et les politiques internationales commerciales d'autre part?
Et s'estimant mise à l'écart du sommet du G7, Greenpeace, comme d'autres ONG, a décidé de boycotter le déjeuner organisé ce midi à l'Élysée. Le chef de l'État avait souhaité entendre des représentants de la société civile à la veille du sommet international. À quoi faut-il s'attendre d'ailleurs pendant ce G7? Les sujets de discussion ne manquent pas. La lutte contre les inégalités, le climat, la protection de l'environnement donc, mais aussi le Brexit et un possible retour de la Russie pour un G8. Sur place, Bertrand Galichet.
À défaut de garantir des avancées diplomatiques, le G7 de Biarritz promet d'être l'attraction internationale de cette rentrée, à commencer par la rencontre attendue entre l'imprévisible Donald Trump et le fantasque Boris Johnson sur fond de Brexit. Le président américain presse le nouveau chef du gouvernement britannique de conclure un accord commercial privilégié avec les États-Unis pour lui permettre de quitter plus facilement l'Union européenne. Ce pied de nez ne sera pas le seul objet de polémique ici à Biarritz. La majorité des pays du G7 font leur possible pour que l'Iran reste dans les clous de l'accord sur le nucléaire, tandis que Washington choisit le bras de fer avec Téhéran. La France reconnaît de vrais désaccords sur ce sujet au sein du G7, même divergence sur un éventuel retour de la Russie pour reformer un G8. Donald Trump s'y est soudain déclaré favorable cette semaine, tandis que Angela Merkel, très impliquée dans la résolution de la crise en Ukraine, juge cette idée prématurée. Autant de confrontations en perspective qui auront le mérite d'éviter les non-dits.
Et pour préparer les discussions du G7 sur le dossier iranien, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui une délégation de Téhéran. Son objectif, tenter de sauver l'accord nucléaire dont les États-Unis se sont retirés l'an dernier. Le chef de l'État veut proposer des choses pour ramener l'Iran au respect du texte signé en 2015. Il devait permettre d'assouplir les sanctions contre l'Iran si ce dernier promettait de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Invité de ce G7 pour deux sessions de travail, le Premier ministre indien Narendra Modi. Il a d'abord été accueilli au château de Chantilly dans l'Oise hier par Emmanuel Macron. Une relation diplomatique stratégique que le président français veut soigneusement entretenir. Elle est importante tant sur le plan commercial que sur le plan environnemental. L'Inde est une fidèle cliente de l'industrie militaire française. La question du Cachemire où la situation est explosive n'a été évoquée que par Emmanuel Macron. Narendra Modi n'a rien répondu, mais il en faudra plus pour abîmer l'entente entre ces deux hommes, Nathalie Hernandez.
Accolade et échange d'amabilité, Emmanuel Macron tenait à recevoir le Premier ministre indien au château de Chantilly, un des joyaux du patrimoine national. Un geste de remerciement du président français qui avait été accueilli en grande pompe l'an dernier lors de sa visite en Inde. Il faut compter avec ce grand pays, a rappelé le chef de l'État français, d'où son invitation au G7. L'Inde, qui est aussi un partenaire stratégique de la France en matière de défense, Emmanuel Macron en a profité pour annoncer la livraison le mois prochain du premier des 36 Rafale commandé par l'Inde en 2015. Concernant le climat, un des thèmes forts de ce sommet, l'Inde s'engage à faire plus d'efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En revanche, sur la situation au Cachemire indien, privé de son autonomie depuis début août, seul le chef de l'État français s'est exprimé. Selon Emmanuel Macron, le Premier ministre indien lui a assuré vouloir éviter toute escalade. Narendra Modi, lui, n'a pas dit un seul mot, alors que quelques heures plus tôt, le leader de l'opposition indienne avait été arrêté.
Peut-être un début de dialogue en Italie. La troisième puissance économique de la zone euro est traversée depuis le début du mois par une nouvelle crise politique, depuis la rupture entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue menée par Matteo Salvini. Le président a passé les deux derniers jours à entendre les différentes formations politiques et a décidé de leur laisser jusqu'à mardi pour trouver une majorité. Sinon, il sera contraint d'organiser des élections anticipées. Des élections, c'est tout ce que veut Matteo Salvini à l'origine de cette crise, Antonino Gallofaro.
Le président de la République sait que certains partis sont en train de dialoguer pour trouver une entente de gouvernement. Mais il leur demande de faire vite, il leur laisse 4 jours jusqu'à mardi avant de les convoquer à nouveau dans une nouvelle tournée de consultation et de décider quelle route emprunter. Une nouvelle majorité soutenant un nouveau gouvernement ou des élections anticipées. Il ne les nomme pas, ces partis qui cherchent une entente, mais entre les lignes, il faut comprendre que le mouvement 5 étoiles, qui était jusqu'à peu au pouvoir avec la Ligue de Matteo Salvini, et le Parti démocrate sont en train de dialoguer pour comprendre s'il existe entre eux des points de convergence et donc la possibilité de gouverner ensemble. Ces deux forces ont toujours été antagonistes, mais elles pourraient s'entendre sur certains thèmes comme les questions sociales ou environnementales. Mais la montre joue contre elle. Le président a rappelé que les temps sont brefs pour trouver une issue à cette crise et que sans accord, la route était celle des urnes pour le plus grand plaisir de Matteo Salvini qui réclame toujours des élections anticipées.
Antonino Gallofaro. Séoul n'échangera plus de renseignements militaires avec Tokyo. La Corée du Sud a décidé de rompre cet accord de partage. Washington déplore cette tension. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, plein d'inquiétude, appelle les deux pays, alliés des États-Unis, à maintenir le dialogue. Les relations sont tendues depuis des décennies entre Séoul et Tokyo. La Corée du Sud est une ancienne colonie nippone. Et on l'apprend à l'instant, l'opposant russe à Vladimir Poutine, le blogueur anticorruption Alexei Navalny a été libéré. Il était détenu depuis 30 jours. En France, les partis politiques font leur rentrée après Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise à Toulouse. Le Parti Socialiste renoue avec le rendez-vous traditionnel de l'université d'été à La Rochelle. Cette année, le PS l'a rebaptisé Campus 19. Plusieurs défaites électorales ont réduit le parti à peu de choses, comme aux européennes où il n'a pas obtenu beaucoup plus de 6% des voix. Mais le PS veut renaître et conquérir des électeurs en rendant plus vert son corpus idéologique, Nicolas Ballut.
Le Parti Socialiste existe encore, il organise des universités d'été. C'est une première depuis 2015. Le rendez-vous de La Rochelle a longtemps été au PS un festival des égos et des déchirements avec prix de la mise en scène. La chronique d'une lente autodestruction. Aujourd'hui, le parti est très affaibli, mais à quelques mois des élections municipales, il compte encore de nombreux élus de terrain. C'est encore sa force, c'est peut-être sa dernière carte, alors il ne faut pas être absent de cette rentrée. Le PS a perdu ses éléphants, certaines grandes figures du parti sont absentes, comme Bernard Cazeneuve ou François Hollande qui se réservent pour la rentrée des parlementaires socialistes. Alors c'est promis, le campus 19 fera beaucoup plus de place aux militants. Le thème, pour un avenir écologique et social. Le parti s'empare donc de la thématique écologique. Il semble même la placer avant la thématique sociale. Le Parti Socialiste va également discuter avec les autres formations de gauche. C'est indispensable dans l'optique des prochaines élections. Europe Écologie Les Verts a décliné. Hier, en ouverture de leur journée d'été, le secrétaire national David Cormand n'a pas manqué d'égratigner les socialistes sans les nommer. Jadis, nous avons connu des partenaires écrasants, méprisants, rempli de la morgue des dominants. Fin de citation.
500 postes supprimés en France d'ici 3 ans chez BNP Paribas. C'est en tout cas ce que redoutent les syndicats. La restructuration touche la filiale qui gère les actifs des grands investisseurs. BNP Paribas veut économiser, quitte à délocaliser, Anne-Laure Jumet.
Sur cette activité peu connue du grand public, BNP Paribas est 5e dans le monde et numéro 1 en Europe. Il s'agit de gérer les actifs pour le compte d'entreprises, de fonds de pension ou encore de fonds souverains. Mais pour préserver la compétitivité de cette filiale, il faut faire des économies, explique la première banque française. La concurrence est toujours plus vive au niveau mondial et puis les taux sont bas, ce qui pèse sur les marges. D'où ce plan qui prévoit de supprimer 20% des effectifs en France à l'horizon 2021. Mais du côté des syndicats, on estime la pilule plutôt dure à avaler alors que ce secteur a connu, disent-ils, une très forte croissance ces 10 dernières années. Et puis, ils dénoncent une délocalisation vers des pays qui payent moins cher la main-d'œuvre et notamment vers le Portugal, explique Régis Emmanuel Suire, délégué syndical CFDT.
On a clairement dénoncé des délocalisations depuis maintenant 10 ans. Des dizaines de postes qui partent au Portugal à compétences égales, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir ces emplois maintenus en France et l'entreprise, elle a fait le choix de les faire partir au Portugal. Ça a été un processus lent. Et aujourd'hui, on a le sentiment que le contexte économique est un prétexte pour la direction pour justifier que ce mouvement s'intensifie.
Pas de réaction sur ce point de BNP Paribas qui met plutôt l'accent sur le fait qu'il n'y aura avec ce plan aucun départ contraint.
Et c'est bientôt l'heure du départ pour les travailleurs en intérim. L'été se termine, les remplaçants s'en vont. Certains ont des jobs saisonniers plus particuliers que d'autres. Il existe ainsi des prêtres en intérim dans des diocèses catholiques français. Ils viennent du monde entier, comme le père Freddy Wakanga, centrafricain. Il s'en ira dimanche après 2 mois au cœur du Maine-et-Loire. Delphine est venue la rencontrer.
Le calme de Béhuard, 125 habitants, tranche avec ce qu'a vécu le père Freddy Wakanga dans son diocèse de Kaga-Bandoro, tenu jusqu'à il y a peu par les groupes armés.
C'est moi qui faisais cette médiation entre les belligérants pour défendre un peu la population. Mais parfois j'étais incapable devant les faits. Il y a eu des gens qui ont été enterrés vivants, il y a eu des gens qui ont été mutilés. Il y a cet esprit de vengeance qui règne dans les cœurs.
Pour se reconstruire, il suit depuis 1 an des études en Belgique et passe donc son été en France. Il a d'abord fallu s'adapter.
Chez nous, c'est beaucoup plus animé, ça chante tout le temps, ça danse, mais ici c'est un peu mort.
Mais le père Wakanga est surtout frappé de voir des fidèles dans les églises françaises.
Il y a quand même la foi, et en dépit du contexte de sécularisation, et ici en France, je suis très content de voir quand même les jeunes.
À la sortie de la messe, échange de sourires.
On a pu avoir la messe tous les jours.
Faustine, 43 ans.
Aujourd'hui, l'église d'Afrique vivifie l'église elle-même. On ne peut pas se passer des prêtres africains qui nous permettent aujourd'hui d'évangéliser aussi en France.
C'est du gagnant-gagnant, confirme Philippe Loiseau, prêtre depuis 30 ans dans le diocèse.
Ça permet aux prêtres qui sont maintenant beaucoup moins nombreux de partir en vacances. Il y a une raison aussi plus fondamentale, on se réconforte mais aussi on se stimule, on se redynamise les uns les autres.
Quand ils viennent en France, les prêtres sont nourris, logés, un peu indemnisés, à eux en revanche de payer visa et billets d'avion.
Et le père Wakanga s'en ira dimanche après la messe, bien sûr. La météo de ce vendredi 23 août, pas de grande différence comparée à hier. C'est une belle journée d'été, le soleil devrait briller partout, sauf dans le sud-est où on attend dans l'après-midi un ciel menaçant, des averses orageuses. Les températures comptaient 8 à 16 degrés dans la matinée, jusqu'à 23 autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 27 près de la Manche, jusqu'à 33-34 dans le sud-ouest et en Provence. Il est 8h15, vous retrouvez Guillaume Erner pour la suite des matins d'été.
Merci Margot Delpierre.